Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous rencontrer dans la mission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 3 mai 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La ministre Sri Mulyani a tenu une réunion bilatérale avec le ministre japonais des Finances. L'Organisation de la coopération islamique se félicite de l'idée de l'Indonésie pour renforcer les partenariats d'enseignement supérieur. Djibouti encourage l'Indonésie à intensifier ses programmes de formation à la pêche. Le gouvernement aide la construction d'un hôpital indonésien à Hébron, en Palestine. Et l'Indonésie est prête à exercer les fonctions de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires financière, Madame Sri Mulyani Indrawati, a tenu une réunion bilatérale avec le ministre japonais des Finances, Taro Aso, en marge de 52e réunion annuelle de la Banque Asiatique de Développement à Nadji, Fiji, jeudi, heure locale. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Antara vendredi. Lors de la réunion, Madame Sri Mulyani a déclaré que le gouvernement indonésien continuerait à développer des infrastructures. L'une des infrastructures est MRT de la deuxième phase à Jakarta qui sera débutée bientôt. Le gouvernement indonésien invitera également le secteur privé à participer au financement des infrastructures dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement et les entreprises. Elle a également invité le gouvernement japonais à investir dans la construction d'autoroutes et de trains dans les régions du nord et du sud de Sumatra. Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique bien apprécient l'idée de l'Indonésie d'intensifier la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur qui vise à développer économique. L'idée a été discutée lors d'un colloque organisé récemment par le bureau de l'envoyé spécial du président de la République d'Indonésie pour le Moyen-Orient et Loki à Jakarta. L'ambassadeur d'Iran en Indonésie, Faliola Mohammadi, a expliqué que l'établissement d'enseignement supérieur jouait un rôle important dans le développement des ressources humaines dans son pays après la révolution islamique en 1979. Selon Faliola, l'Iran a maintenant plusieurs réalisations qui sont prêtes à être partagées aux pays de l'Organisation de la coopération islamique, y compris l'Indonésie. Le vice-recteur pour coopération et des anciens de l'Université Gadjah Mada, Paripurna P. Sugarda, a exprimé son intérêt à collaborer avec les universités en Iran, notamment pour le domaine de la science nucléaire. Selon lui, l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques doit être encouragée parce que le coût est très bon marché. Djibouti espère que l'Indonésie améliorera le programme de renforcement des capacités des pays du continent africain parce que les technologies de la pêche et de la gestion de la pêche indonésienne sont considérées comme très avancées. Cela a été dit par le directeur adjoint des affaires maritimes du ministère des Transports de Djibouti, Habon Muhammad Elmi. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Djibouti et l'Union africaine, Al-Bushra Basnour, qui s'est rendu à Djibouti le 27 avril. L'ambassadeur Al-Busra Basnour, dans son communiqué de presse reçu par Antara à Bogor jeudi, a déclaré que Elmi était une femme participant au programme de formation à la pêche en Indonésie en juillet 2017. L'activité de renforcement des capacités a été organisée par le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère indonésien de la pêche dans le centre d'éducation et de formation de pêche à Ambon. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que le gouvernement indonésien contribuerait à la construction de l'hôpital indonésien Hebron en Cisjordanie, Palestine. La construction de l'hôpital utilise principalement des fonds de charité de la communauté. M. Yusuf Kalla, lors d'une collecte des fonds pour l'hôpital indonésien Hebron à Jakarta jeudi, a estimé que les efforts pour collecter des fonds pour la construction de l'hôpital se dérouleraient bien, notamment pendant le mois de Ramadan. La construction de l'hôpital en Palestine devrait coûter 7 millions de dollars américains. Le gouvernement indonésien est prêt à s'acquitter des tâches de la présidence indonésienne auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'en mai 2019. Le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Febrian Rudiard, a déclaré dans une conférence de presse jeudi à Jakarta que Dian Triansyah Djani, mercredi après-midi heure locale, a tenu une conférence de presse et un petit déjeuner de travail en tant que nouveau président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le thème sur la présidence indonésienne était « Semer des graines de la paix, renforcer la sécurité et la performance des opérations de maintien de la paix de l'ONU ». Selon Febrian, la présidence indonésienne au Conseil de sécurité des Nations Unies est une forme de confiance internationale en Indonésie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Les suites de la crise vénézuélienne ». La situation au Venezuela se réchauffe. La crise politique survenue après les élections générales est plus tendue et les élections ont été remportées par le président sortant, Nicolas Maduro. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, a appelé ses partisans à organiser chaque jour une manifestation dans les rues afin de renverser Maduro de la présidence. La tension dans le pays d'Amérique latine est encore aggravée par la tension croissante dans le camp militaire qui est en train de se diviser. La scission est déclenchée par l'affirmation de Guaido selon laquelle il aurait reçu un soutien militaire. Maduro s'oppose à cette affirmation car les responsables militaires vénézuéliens soutiennent toujours Maduro. Juan Guaido n'avait pas réussi à effectuer un coup militaire. Un jour après l'échec du coup d'État, Guaido a de nouveau mobilisé des milliers de sympathisants pour organiser une manifestation. La crise vénézuélienne déclenchée par un conflit entre le président Nicolas Maduro et le chef de l'opposition Juan Guaido n'est plus une affaire antérieure. Les deux figures rivales ont estimé avoir reçu un soutien à l'étranger. Nicolas Maduro reçoit le soutien de la Russie et Guaido des États-Unis. Comme on l'a souvent rapporté, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov se sont mutuellement accusés des causes de la crise au Venezuela. Les États-Unis ont déclaré que la Russie était la cause de la crise et vice-versa. Les pays d'Amérique latine, en particulier le Mexique, essaient d'être neutres et tentent d'organiser une conférence pour trouver une solution. Compte tenu de la situation actuelle, la fin de la crise au Venezuela n'est pas encore prévisible. Cette crise est survenue depuis le 10 janvier 2019 en raison d'un différend sur les résultats de l'élection présidentielle. Enfin, les conditions politiques et économiques du pays se sont dégradées. Des milliers de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour fuir dans les pays voisins afin d'éviter des conflits qui n'ont pas encore été résolus. Que la flamme au Venezuela soit bientôt éteinte ou même qu'elle brûle encore plus le pays, cela dépendra du président Maduro et du chef de l'opposition Juan Guaido. pour résoudre le conflit ou gagner la bataille du pouvoir en trouvant la paix en ruine ou en trouvant des solutions à leur peuple. C'est Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 3 mai. Le 3 mai 1960, l'Association européenne de libre-échange a été créée. L'Association européenne de libre-échange a été créée le 3 mai 1960 en tant que bloc commercial alternatif pour les pays européens qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas rejoindre la Communauté économique européenne, CEE, devenue maintenant l'Union européenne. L'Association européenne de libre-échange a été créée par les pays norvégiens et suisses. À l'heure actuelle, seuls l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, qui sont toujours membres de l'Association européenne de libre-échange. Le 3 mai 1985, Elias Pikal, champion d'IBF, classe poids coq junior. Elias Pikal est un boxeur indonésien qui est devenu le premier champion du monde de boxe de l'Indonésie. Elias Pikal pratique la boxe depuis l'âge de 13 ans et pratique clandestinement parce qu'il a été banni par ses parents. Il a remporté le titre IBF classe poids coq junior ou classe de vol superbe du boxeur coréen Chun Judo à Jakarta le 3 mai 1985. Après avoir défendu son titre contre le boxeur australien Wayne Mulholland le 25 août 1985, Pikal doit reconnaître la supériorité du boxeur de la République dominicaine César Polanco avec des chiffres à Jakarta. Mais Pikal a pu se relever et venger sa défaite contre Polanco en battant KO Polanco lors du deuxième match à Jakarta le 5 juillet 1986. Le 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a fixé le 3 mai une journée pour commémorer les principes fondamentaux de la liberté de la presse afin de mesurer la liberté de la presse dans le monde. Depuis lors, le 3 mai a été commémoré afin de préserver les médias de toute attaque d'indépendance et de rendre hommage aux journalistes décédés dans l'exercice de leur profession. Le 3 mai est devenu un jour pour encourager les initiatives publiques en faveur de la lutte pour la liberté de la presse. La Journée mondiale de la liberté de la presse est également une occasion de rappeler au gouvernement de respecter son engagement en faveur de la liberté de la presse. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jolak tidak. cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa namanya saat bersama.
Voilà la chanson intitulée « Kangen » ou en français « Tu me manques » chantée par Dewa 19. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, de la fréquence de 3325 kHz et sur le site de www.voinews.id. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie est prête à devenir le centre mondial de la mode musulmane l'année prochaine ». Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a ouvert mercredi le Festival de la mode musulmane au MUFES 2019 à Jakarta Convention Center. Cet événement a présenté des œuvres de concepteurs locaux ainsi que des produits cosmétiques et des bijoux, tenu de 1er au 4 mai. Dans son discours, Erlangga Hartarto a exprimé son appréciation aux concepteurs et aux partisans de l'activité. Selon lui, le gouvernement a encouragé l'Indonésie à devenir le centre mondial de la mode musulmane. Erlangga Hartarto a ajouté qu'après la construction d'infrastructures cette année, les ressources humaines étaient la prochaine priorité, y compris le secteur de la création. Par conséquent, il doit également encourager l'enseignement professionnel à pouvoir donner naissance à de jeunes concepteurs pour leur apparition et atteindre un vaste marché. Il a ajouté que le ministère de l'Industrie continuait d'encourager le développement de l'industrie de la mode musulmane dans le pays afin d'être plus compétitif sur la scène mondiale et de montrer que l'Indonésie était prête à devenir l'un des centres mondiaux de la mode musulmane en 2020. Les opportunités pour les marchés mondiaux et intérieurs de la mode musulmane restent immenses. Pour cette raison, il doit être rempli par l'industrie de la mode musulmane à l'intérieur du pays. Erlangga Hartarto a souligné que le développement du nombre de musulmans dans le monde est l'un des moteurs de la croissance de l'industrie de la mode musulmane. En 2018, le nombre de la population totale des musulmans représente 24% de la population musulmane totale dans le monde. Plus de 100 dessinés ont participé au Festival de la mode musulmane 2019 qui a présenté divers produits de mode, de beauté et de bijouterie. Le président national de la Chambre de la mode indonésienne entend également le chef du réalisateur du Festival de la mode musulmane MUFES 2019, Ali Harisma, a affirmé que les vêtements des musulmans indonésiens ont des caractéristiques très claires. Les vêtements des musulmans indonésiens sont très variés et ouverts à sa création et leur apparence est très extraordinaire. Cela peut amener l'Indonésie à concurrencer avec les marques internationales. Pendant ce temps, la directrice générale des petites, moyennes et diverses du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsih, a déclaré que le ministère de l'Industrie implique 656 petites et moyennes industries ou PME et 60 concepteurs dans le développement de l'industrie de la mode musulmane tout au long 2018-2019. Il a expliqué que son programme de formation affaires est intégré d'amont en aval. Des exemples de programmes sont liés à l'industrie de la mode musulmane avec l'industrie textile, le conseil technique et la certification des normes nationales indonésiennes de compétences au travail, au renforcement des capacités de la mode musulmane des PME et à la croissance et au développement de nouveaux esprits d'entreprise des PME des vêtements musulmans. Selon Gati, l'industrie de la mode musulmane en Indonésie doit être encouragée à appliquer la technologie industrielle 4.0. Avec l'application de l'industrie 4.0, il optimise que la productivité et la qualité augmenteront plus efficacement, mais sans réduire le nombre de travailleurs. La supériorité des produits de mode musulmans du pays, en plus d'être reconnue au Koweït et aux Émirats Arabes Unis, est également recherchée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon. Serviteur, c'était Mang Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Terbersayap tak cemerlang, tak rupanya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous venez d'écouter la chanson de Dewi Lestari dont le titre est Malaikat Juga Tahu, qui signifie Ange sait aussi. Vous restez toujours avec nous à l'onde courte de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission à site de www.voynews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la danse de Padupa Bosara. La ville de Batam a organisé une visite de Muhibah Bugis Melayu Serumpun le 27 avril. L'événement était très succès parce que 219 touristes étrangers en provenance de Singapour y ont assisté. Selon Trindiana M. Tikupasang, le haut fonctionnaire du ministère du Tourisme, la visite de Muhibah Bugis Melayu Serumpun est un moyen de préserver la culture et de faire revivre la gloire de Bugis Malais. L'événement vise également à faire la gloire l'histoire des Malais de Bugis à travers des performances culinaires, musicales et de danse. L'une des cultures présentées est la danse de Bugis et Padupa. Il y a eu aussi des chansons en Malais et en Bugis, entre autres la chanson intitulée Balulipa, Tana Ogi Wanuaku et Zapin Pusaka. La danse de Padupa Bosara est une réception de danse pour les Bugis Makassar lorsque les invités arrivent. Dans les temps anciens, cette danse était souvent pratiquée pour divertir le roi, accueillir de grands invités, des fêtes traditionnelles et des mariages. Bosara est un plat typique de la tribu des Bugis Makassar dans le sud de Sulawesi. La matière de base de Bosara est en fer, en plus d'être utilisé comme l'un des outils utilisés par les danseurs. Bosara est également un plat pour servir divers gâteaux traditionnels en tant que symbole traditionnel, notamment lors d'événements sacrés tels que les mariages traditionnels. La danse de Padupa Bosara est dansée par des femmes portant une bosara remplie de gâteaux livrés aux invités en signe de respect. Cette danse a maintenant de nombreuses créations. La danse Padupa Bosara utilise des vêtements traditionnels avec des décorations complètes telles que des colliers, des bracelets, des ornements de cheveux ou des bandeaux, des boucles d'oreilles et des ornements de poignets. Chers amis, c'était Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri. Kepadaku pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Voilà la troisième chanson intitulée « Pergilah kekasih », c'est-à-dire « Allez mon amour » chantée par Edouard. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et pour titre, la délégation de l'Université d'Indonésie, UI, a remporté la première place dans la compétition commerciale en Corée du Sud. Restez à l'écoute avec nous sur www.voice.id. La délégation d'UI a remporté avec succès la première place dans le concours commercial en Corée du Sud. Cette équipe était composée de 6 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie. Ils ont été choisis comme champions grâce à l'innovation dans le traitement des déchets plastiques. À travers de ces idées novatrices sous forme de traitement des déchets plastiques en matière première, en filtre dimensionnel, pour filament d'imprimante, la délégation de l'Université d'Indonésie a remporté le titre. Ils ont remporté le titre ou la première place du prix Platinum et un prix d'une valeur de 2 000 $ américains. Le concours, intitulé le Forum de Vantour des étudiants asiatiques, a eu lieu à Séoul et à Daejeon en Corée du Sud au début d'avril. Les 6 étudiants étaient Pandey Bagus Widyantara, Muhammad Rashad, Idrus Fahreza, Rizka Amira, Naufal Arif et Abia. Le concept proposé par eux est plein de technologies, mais il priorise également des idées d'affaires intéressantes et financièrement prometteuses. L'un des membres de l'équipe, Pandey Bagus, a déclaré qu'en tant qu'étudiant en ingénierie de l'UI, il souhaitait présenter les résultats de l'ingénierie appliquée pouvant apporter des avantages à la communauté. Il est fier de pouvoir représenter l'UI lors du prestigieux événement en Asie et de rencontrer des étudiants de certains pays afin de leur présenter la culture indonésienne et la qualité des jeunes. Le Forum de Vantour des étudiants asiatiques est un événement annuel organisé par Korea Economic Daily et parrainé cette année par KTEJ. Ce concours de création d'entreprises est participé par divers pays asiatiques comme Chine, Taïwan, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, Philippines, Singapour, Ouzbékistan et Vietnam. Le plus grand concours international de plan d'entreprise en Corée du Sud est organisé depuis 2002. En plus de présenter de nouvelles idées et des innovations intéressantes, tous les participants ont également pris part à diverses activités culturelles, discussions sociales et débats liés à d'autres problèmes économiques mondiaux. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini. Yeah.
Voilà Derby Romero avec sa chanson dont le titre est Gloria Asmara ou en français Le Romance. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'onde courte de 3325 kHz et sur le site de www.voynews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales et cette fois-ci, je vous présente la chanson de Java de l'Ouest.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec le magazine musical. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson intitulée Bubuy Bulan. Bubuy Bulan est une chanson sundanaise, n'est pas seulement populaire dans sa région d'origine, Java de l'Ouest, mais à diverses occasions, telles que le mariage, dans certaines régions d'Indonésie, elle est souvent présentée. La chanson créée par Benny Korda raconte d'une fille qui tombe amoureuse d'un homme qui passe tous les jours devant sa maison. Mais pour certaines personnes, cette chanson a une signification religieuse profonde. Et cette fois-ci, je vous donne la chanson Bubuy Bulan, arrangée par Vicky Sianipar et chantée par Deasi Puspitasari. Bonne écoute!
Bubuy bulan, bubuy bulan sang raja.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Bon, chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir!